Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce deuxième numéro du débat politique de ce mois d'octobre. Nous décortiquons et analysons le rapport du programme des Nations Unies pour le développement PNUD sur l'indice du développement humain, rapport qui classe la République centrafricaine 188e rang mondial et 50e rang en Afrique avec un taux de pauvreté qui touche près de 80% de la population du 166e rang l'année dernière. Au 188e cette année, le Centrafrique devient l'un des pays les plus pauvres de la planète. Selon les observateurs sociaux, l'inégalité sociale, la corruption et le népotisme battent l'air plein dans le pays. Question Patara de la semaine, qu'est-ce qui explique le taux élevé de la pauvreté dans le pays? Si le rapport pointe du doigt l'inégalité sociale, que faire pour y mettre fin? Est-ce que le gouvernement se soucie-t-il de son peuple? Si oui, comment expliquer ce recul mentionné dans le rapport du PNUD de 2022? Eh bien, toutes ces interrogations vont nous aider à respecter l'ossature de Patara, le débat politique d'aujourd'hui. Nous avons deux invités qui ont répondu à notre sollicitation. D'abord, l'un est le secrétaire général du parti ITA et député du 4e 1 de la ville de Bangui. Je veux ici nommer Dominique Yandoka. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Et l'autre, il est membre du gouvernement, président du parti chrétien démocrate, PCD, écrivain et actuel ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Aristide Briand-Reboise, bonjour.
Bonjour Armando, bonjour à tous les auditeurs.
Armando Nguindi, c'est moi encore, bonjour à toutes et à tous. Et si vous venez de prendre le train en marche, vous êtes bel et bien sur Radio Ndeke Lukai dans son débat politique.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndeke Lukai.
Après votre élection en tant que député en décembre 2020, Monsieur Yandoka, vous vous êtes méfié de prendre la parole dans les médias et surtout sur certains sujets politiques. Vous avez accepté aujourd'hui de débattre avec un membre du gouvernement. Quelles sont donc vos motivations?
Merci Armando, merci à tous les spectateurs, merci au ministre Rebos qui a bien voulu répondre présent à cette invitation. Comme vous avez mentionné au début, c'est vrai, j'ai pris le temps, étant donné que j'étais en campagne pour être député. J'ai été élu député grâce à l'appui de la population du 4e arrondissement de Bangui. Et par après, je suis à l'Assemblée. Mes pairs m'ont choisi d'être le président de la commission ressources naturelles, production et environnement. C'est un poste à responsabilité. Et ça m'a permis de prendre un peu le temps. Comme un oiseau qui vient atterrir sur un arbre va d'abord prendre son temps, d'analyser de fond en comble, pour savoir exactement comment les choses se passent avant de se prononcer. D'où vous m'avez vu observer un silence pendant tout ce temps et aujourd'hui j'ai accepté de débattre sur des sujets qui touchent la vie de nos populations, notamment ce que vous venez de mentionner en introduction.
Monsieur Reboas, au nom du gouvernement, vous participez au débat sur la situation sociale de la population centrafricaine. En tant que ministre de la Jeunesse, qu'est-ce qui vous a motivé à débattre avec le député Yandoka?
Toujours la volonté de contribuer activement au débat politique, faire porter aussi la voix du gouvernement dans les réalisations et les constats de notre situation. Et nous sommes dans la pédagogie, nous devons toujours expliquer, convaincre, justifier des actions que nous menons pour effectivement contribuer et qui contribuent au relèvement de notre pays. Donc, il y a eu un rapport, effectivement. Je vais apporter le regard, effectivement, du gouvernement. Dans la lecture que je me fais de ce rapport, il y a eu des points justes, il y a eu des points exagérés, il y a eu des points subjectifs et objectifs et nous sommes là pour en parler.
Avant tout, le rapport du programme des Nations Unies pour le développement PNUD a classé la République centrafricaine parmi les pays les plus pauvres au monde, j'allais dire, et surtout en Afrique, via les Ngasso. Que dit concrètement ce rapport?
Le classement prend en compte la question du développement humain des pays en se basant sur plusieurs données impliquant entre autres le niveau d'éducation de la population, la santé et le revenu. Selon ces données, la République centrafricaine est classée 188e sur 191 pays. Elle est fortement touchée par la pauvreté. Le revenu par habitant est faible en raison de la fragilité financière. En cause, la pandémie mondiale de COVID-19, les conflits locaux ou régionaux qui ont durement impacté l'économie mondiale. En ce qui concerne la RCA, le coefficient d'inégalité humaine est un peu plus de 40% avec seulement 4% d'utilisateurs d'Internet et un manque de politique axée sur les investissements. Plus de la moitié des Centrafricains sont touchés par la pauvreté et manquent de l'essentiel pour vivre. En juin dernier, la Banque mondiale avait fortement exhorté le gouvernement centrafricain à investir dans le capital humain pour briser le cycle de la pauvreté dans le pays. Contrairement en 2020 où la Centrafrique occupait le 166e rang mondial, elle a perdu plus de 20 places pour se placer au 188e rang avec un indice de développement humain le plus faible du monde.
Merci à vous Vianney Ngasso. Le rapport en citant l'inégalité sociale, vous avez écouté, a évoqué le niveau d'éducation de la population. Sur ce volet, beaucoup d'observateurs ne cessent de critiquer la politique du gouvernement. Quels sont vos constats sur le niveau de l'éducation nationale en République centrafricaine, monsieur Yandokaï? On va faire le tour. La même question pour tout le monde.
Pour ce qui concerne l'éducation nationale, comme vous le savez, depuis dans les années 90, notre éducation, le système éducatif en République centrafricaine commençait à se détériorer. Cela était dû non seulement à la multiplication des années blanches jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, comme je vous avais dit que c'était dans les années 90, donc 25 ans, voire 30 ans passés aujourd'hui, je suis un peu surpris que les choses n'ont pas été à la hauteur aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que quand vous allez dans l'éducation nationale, quand vous voyez les enfants, les conditions dans lesquelles les enfants vont à l'école, ça ne peut que interpeller notre conscience. Et nous, en tant que députés de la nation, nous sommes prêts pour dire au gouvernement ce qui était de leur responsabilité afin d'apporter des solutions idoines au problème de l'éducation en République centrafricaine.
Et dans tous ces constats, vous avez dit que les conditions dans lesquelles ces élèves sont là pour étudier ou bien pour apprendre, pour vous, c'est un peu difficile, mais vous n'avez pas relevé les difficultés en tant que telles.
Les difficultés, c'est d'abord une question de volonté politique. Il vous souviendra que le président de la République, en 2016, quand il avait pris ses fonctions en tant que président de la République, le budget de l'éducation nationale était de 4%. Donc il avait demandé à son gouvernement de l'époque de rehausser à 22%. Mais jusqu'à l'année dernière, jusqu'à cette année, d'après nos chiffres, nous sommes qu'à 7%. Donc, la promesse qui a été faite en 2016, où en sommes-nous, de 4% qu'on devait passer directement à 22%, on est à 7%. Quel est réellement le problème? Donc, si nous avons la volonté politique, si le gouvernement voudrait à ce que les choses s'améliorent, il faut d'abord investir au maximum dans l'éducation, notamment par l'intégration
des enseignants,
par la prise en charge des différents établissements scolaires, et aussi les conditions dans lesquelles les enseignants et les élèves et étudiants étudient. C'est-à-dire que dans quelles conditions ils étudient, les salles de classe, il manque de... Je suis un peu surpris et vraiment touché que dans notre pays, un pays producteur de bois, dans notre pays, il manque des tables bancs dans les salles de classe. Donc, c'est une question de volonté politique. Et nous cesserons de demander au gouvernement de mettre un accent particulier sur l'éducation nationale en République centrafricaine. Car si nous voulons à ce que notre pays prospère, relever le défi qui s'impose à nous, nous devons d'abord commencer par prendre comme leitmotiv l'éducation nationale. Parce que c'est grâce à l'éducation que nos enfants d'aujourd'hui qui seront les élites de demain, s'ils sont mal formés, il ne faut pas s'attendre, il ne faut pas crier. Et si, je ne suis pas surpris qu'on est passé de 166 l'année dernière à 188, vous constaterez de vous-même que ça ne marche pas.
Vous pointez du doigt la volonté politique, hein, et cette question, nous allons revenir sur cela pour décortiquer. Avec vous, monsieur Reboiz, vous représentez le gouvernement dans ce débat et vous avez écouté le rapport qui pointe du doigt le niveau de l'éducation de la population centrafricaine.
Permettez-moi de donner mon opinion sur le rapport en question. Le classement mondial, sur le classement mondial du développement humain par le PNUD. Donc, contrairement à ce qui a été écrit et repris dans la presse centrafricaine, la RCA a gagné 2 places entre 2020 et 2022. En effet, elle était au 188e rang sur 189 pays classés en 2020, avec le Niger qui ferme la marche en 2000. Et en 2022, elle est au 188e rang sur 191 pays classés, avec le Niger, le Tchad et le Soudan du Sud, qui sont derrière elle, bien sûr. Alors, comment objectivement perdre 20 places en 2 ans quand on est situé depuis longtemps dans les 4 derniers pays du classement? Au contraire, le pays, pour moi, a gagné 2 places en 2 ans. Je m'en explique. Ça, une manière pour moi de dire que ce rapport est erroné, voire faux. Et je mettrai n'importe qui au défi capable de me démontrer le contraire, y compris le pape. Deuxièmement, parlons de l'éducation nationale. Commençons par les faits historiques. J'ai vu que l'honorable a remonté un peu dans les années 90. Je vais aussi rester à ce niveau pour expliquer, bien sûr, pour beaucoup d'autres raisons, nous pouvons aller un peu plus l'avant. Mais je reste sur le constat à partir de 90. Méfiez-vous des rapports souvent qui émanent des organisations de foi internationales, des organes spécialisés des Nations Unies, y compris de foi quelque part de l'ONU. L'éducation a commencé par dégringoler par rapport au plan d'ajustement structurel à l'époque Banque mondiale ou FMI, qui nous a obligés à faire partir nos meilleurs enseignants à la retraite. Vous avez appris, comme moi, l'histoire de DVA, départ volontaire assisté. Nos instituteurs bien formés, qui nous ont formés, qui ont fait de telle sorte que même au niveau de CM2, on pouvait écrire sans faute. On les a tous mis à la retraite, ils sont partis et on a repris des gens mal formés et que, naturellement, ça a joué. Ça, c'est l'un des facteurs. Le deuxième facteur qui est aussi exogène au gouvernement, qui ne peut pas être imputable au gouvernement actuel du président Touadéra et même bien avant, mais c'est le facteur chrysogène lié à la situation que nous connaissons. Nous avons, la RCA a été marquée par plusieurs implosions d'instabilité politique. Nous avons eu l'assaut des groupes armés à multiples reprises. Les groupes armés que vous voyez, quand ils arrivent dans un pays, ils prennent pour cible les écoles, les hôpitaux. Et c'est là où ils mettent en place leur QG, etc. Qu'est-ce qui arrive? Le proverbe chinois de Sun Tzu, qu'est-ce qu'il dit? Si vous voulez détruire un peuple, l'avenir d'un peuple, commencez par vous attaquer à son système éducatif. Et au bout de 20 ans, vous revenez, vous allez voir qu'il n'y a rien. Les multiples crises militaro-politiques depuis l'arrivée, par exemple, de mouvements de libérateurs en 2002-2003. Mais cela a fait perdre à l'État le pouvoir de contrôle de son territoire, de sa population, pour garantir aussi la stabilité politique, condition sine qua non du développement humain. Et donc, le gouvernement du président Touadéra, par des orientations diplomatiques assumées, a pu aussi assurer le contrôle de plus de la majorité du territoire, ce qui est un facteur nécessaire. Maintenant, les efforts doivent être poursuivis pour le redéploiement de l'autorité de l'État dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de santé, dans d'autres domaines, pour permettre. Nous avons hérité une situation très grave. Mais à titre personnel, je pense que le président Touadéra, lui-même, a contribué à l'émergence d'un véritable capital humain sur le plan de l'éducation nationale. Il est plus que tout, il est plus même avancé dans cette compréhension, puisqu'il est resté en contact avec la réalité.
Comment? Mais vous voulez parler de son intervention à l'université?
Non, pas que ça. Pas que ça. Mais lisez son discours. Lisez son discours d'investiture. Lisez la priorité de la lettre de mission donnée à chaque ministre.
Non, on veut ramener le débat sur le concret. Actuellement,
manque de l'éducation, même si vous remettez en cause le rapport, mais sur le plan national et sur le plan concret, ce que vous voyez aujourd'hui, le niveau de l'éducation en République centrafricaine, qu'en dites-vous?
Je sais que le niveau a baissé et je vous ai expliqué d'autres paramètres qui pouvaient justifier cela. Mais le président de la République a fait ce constat, même dans le séminaire gouvernemental, nous avons fait ce constat. Ce qu'il faut faire, déjà, un, c'est de veiller à ce qu'il y ait des reprises d'abord sur le plan national des activités scolaires qui étaient jadis empêchées par la présence de groupes armés. De deux, maintenant contribuer à la formation des formateurs, c'est-à-dire que trouver un moyen de former,
de recycler,
voilà, de recycler et que de former les formateurs. Quand on a des formateurs capables de former à ce niveau-là, parce que la personne, une belle femme, ne peut que donner ce qu'elle a, mais on ne peut pas inventer les choses. Il faudrait que nous puissions former et nous puissions aussi s'attaquer à la problématique des infrastructures. Voyez-vous que prends juste
cinq ans, premier quinquennat passé, mais on est presque dans le...
Laissez-moi vous égrener les réussites. Hey, il y a des infrastructures scolaires. Allez aujourd'hui à l'université, dites-moi, quel est l'établissement scolaire qui a eu plus de taux en matière de réussite en première année des droits, etc. Mais c'est des étudiants qui viennent de lycée de Miskine. À l'époque, c'était rapide, puis 12, etc. Parce que aujourd'hui, le lycée de Miskine a une belle structure et il y a des conditions favorables pour étudier. Tout ça, là, si on a une structure, dignes, mais c'est un exemple. Si on a des infrastructures dignes, mais ça peut créer des conditions morales pour permettre l'épanouissement des élèves et des étudiants.
Vous avez une minute de plus sur le député. Monsieur Yandoka, vous voulez rebondir? Je vois tout à l'heure, vous prenez note par rapport à ce que le ministre vient de dire.
Je suis tenté de rappeler au ministre de la République qu'il est ici pour défendre le gouvernement. Et ça se voit même dans ses dires, c'est vrai, c'est son rôle. Mais il faut aller au-delà des mots, il faut aller au-delà des discours. Je suis un peu surpris que, à ce jour, on parle encore, on fait référence au discours du chef de l'État. Or que nous voulons du concret. Le concret voudrait ce que, quand vous avez mentionné qu'il y a eu des pas volontaires assistés dans les années 90, 32 ans après, on n'est pas capable aujourd'hui de faire en sorte qu'il y ait, de pallier ces départs jusqu'aujourd'hui. Et pourtant, à la tête de ce pays, même vous qui êtes devant moi, vous êtes un enseignant, vous êtes un haut cadre. Donc, il n'en demeure pas moins pour les autres. C'est à nous maintenant de chercher à savoir et toucher du doigt les vrais problèmes. Le problème centrafricain, c'est que nous sommes toujours dans des grandes théories, mais au niveau pratique, il n'y a pas. Le retour d'état de droit, quand vous avez fait mention tout à l'heure concernant les écoles qui ont été occupées, si vous faisiez un peu le tour de la République, même dans l'arrière-pays, il me semble qu'il n'y a aucun établissement scolaire ou aucun lycée qui est aujourd'hui occupé par les groupes armés. Mais n'empêche, même si c'est le cas, est-ce que ici à Boirab, est-ce que ici l'école combattant,
Boganda,
est-ce que lycée Boganda? Et ça aussi, ce sont des établissements qui ont été occupés par les groupes armés? Mais non, c'est une question de volonté politique. Je reçois régulièrement, comme mes autres collègues, les ministres, quand ils viennent pour discuter de leur budget, comme ce serait le cas, nous sommes dans une session budgétaire, mais quand vous prenez chaque sectoriel, chaque ministre, quand vous prenez le projet... mais ça reste à désirer. Il manque d'ambition. Comment voulez-vous que dans un gouvernement comme ce qui se passe pour une république, l'année dernière, je crois que nous ont fait un projet de création de deux salles de classe. Deux salles de classe. 150 millions. 150 millions.
Pour deux salles de classe.
150 millions, ce qui équivaut, parce qu'une salle de classe, c'est 50 quelques millions. Quand une salle de classe aux normes, c'est 50 quelques millions. Mais ils nous ont emmené 150 millions en titre de prévision. Donc il n'y a pas d'ambition, il n'y a aucune volonté. Les gens aiment bien parler, mais ça reste que des slogans. Sur le fond, il va falloir que le gouvernement se réveille. Arrêtez d'accuser les uns et les autres. Nous pouvons faire mieux, mais s'il s'agit seulement de mettre la volonté. Le gouvernement, vous allez voir ce que je suis en train de vous dire. D'ici peu de temps, nous allons recevoir le projet du budget 2023 et... croyez-moi, Armando, la population sera informée de ce que le gouvernement va proposer en matière d'éducation.
Oui, monsieur Rebois, sur ce point, manque de volonté politique.
Non, au toujours contraire, des discours. Je ne suis pas dans le discours, je n'ai même pas encore commencé les théories, mais je suis en train de vous interpréter des faits, des résultats, des choses factuelles. Je dis que le constat est réel pour tout le monde. D'abord, on n'a même pas besoin d'attendre FMI, Banque mondiale, PNUD, etc. pour constater qu'il y a eu des reculs dans ce sens. Et nous avons remonté dans le temps pour avoir les causes. Aujourd'hui, la volonté politique du président avec les méthodes employées, mais c'est des méthodes concrètes. On n'est pas virtuel, on est réel. Comme vous me voyez, je suis bien réel.
Oui, monsieur le ministre,
ce que je tiens à vous dire...
Vous ne pouvez pas aujourd'hui justifier, si ce n'est que depuis, je parle pas à l'époque du président Touadéra, oui, mais aucun établissement scolaire construit par l'État.
Non.
Vous ne pouvez pas nous faire mention, c'est-à-dire qu'on prend, on réfectionne, on ne se rend pas compte que, entre-temps, vous parlez de lycée de Miskine, il y a eu, à l'époque, quand le lycée de Miskine avait été créé, il y a eu combien d'habitants ? Aujourd'hui, on a combien d'habitants dans le secteur ? Est-ce que vous avez pensé à cela ?
Est-ce qu'on peut par exemple, le combattant ?
Non, je n'ai pas encore fini. Hein.
Oui.
Vous m'avez coupé et pourtant il fallait me laisser aller jusqu'au bout. Je vous aurais économisé de dire ça. Pourquoi ? Le constat du gouvernement, c'est quoi ? C'est que c'est vrai que la crise, là, faisons le constat, monsieur l'honorable. Avant la crise, la situation de la RCA, on était à 800 000 habitants. Après la crise, on est passé de 800 000 à 1 400 000 habitants. Ceux qui sont venus aujourd'hui grossir la population de la capitale, par exemple, ce sont des jeunes qui ont besoin de l'éducation, qui ont la force de fuir parce que les vieux ne pouvaient pas fuir de leurs arrière-pays pour venir dans la capitale. Mais ceux-là, quand ils arrivent, vous avez parlé de lycée Miskine, parlons-en. Tous ceux qui ont connu des crises dans les quartiers des villes du Nord, ils ont souvent, il y a des quartiers ici qui ont des traits d'union entre les quartiers du Nord et les villes du Nord. Les
gens ça, c'est
qui
partout.
Sont, non, je vous donne, oui, bon, partout, mais je ne peux pas vous étaler tout ça. Voilà. Maintenant, il faut faire le constat. On se rend compte que la capacité d'accueil n'est plus tenable parce que la population a évolué, voire a doublé. Voilà pourquoi, quand vous parlez de colmatage, etc., par exemple, on a augmenté la capacité d'accueil. On a augmenté, ça c'est le début d'une solution concrète.
Combien d'élèves par salle de classe aujourd'hui, monsieur?
Je ne peux pas vous parler avec exactitude.
Plus d'une centaine.
Non,
élèves
même
par
peut-être
classe.
Plus. Allez, même à l'université de Bangui. Ouais. Dans première
et
année,
et dans
il y a
ces conditions, vous conviendrez
mais
que
vous
il
savez,
n'y aura pas
non.
meilleures
vous êtes,
conditions.
Vous faites aussi le constat qu'avec moi, que l'État a pris le problème à bras le corps. Augmenter les capacités. Ici, que ça soit à l'université, que ça soit au lycée Miskine et dans les arrière-pays, les capacités d'accueil doivent augmenter pour permettre d'intégrer le maximum.
Mais vous parlez de capacités d'accueil, mais maintenant, il y a le manque de matériel didactique pour permettre aux enseignants de former régulièrement et normalement les élèves.
Mais vous parlez de quoi ? C'est-à-dire quand on parle de moyens, mais on parle d'abord, le moyen lié au facteur humain, c'est-à-dire le formateur. Nous avons parlé de ça.
Oui.
Mais les outils, c'est de quand vous allez en guerre, par exemple, pour l'éducation, vous n'allez pas avec la guerre, avec le moyen espéré, mais avec les moyens de bord. Les moyens de bord, mais c'est ce qu'on a toujours utilisé quand on était petit. Mais c'est vrai que nous sommes à l'heure du numérique, les choses évoluent. Là, c'est un autre débat à part. Donc, il faudrait constater qu'il y a eu des avancées, mais ce n'est pas significatif. Il faudrait faire des efforts pour avoir ce qu'il faut, dans le cadre des partenariats ou autres, avoir des moyens pour s'attaquer à tous les problèmes, à tous les niveaux.
Oui, M. Ndoka, sur cette question de manque de matériel didactique.
Mais vous savez, la priorité du gouvernement était toujours ailleurs, ce gouvernement. Nous avons constaté, on ne cesse de le rappeler à chaque fois, que l'éducation est un élément clé dans le développement. Vous parlez de matériel didactique aujourd'hui. Moi, je pense que, étant donné qu'ils n'ont pas la volonté d'augmenter la capacité d'accueil, combien de fois ils auront
mais
la
c'est
possibilité.
Augmenté. Je vous ai fait la démonstration que c'est augmenté.
C'est-à-dire qu'au lycée Bougana, vous avez construit un nouveau bâtiment?
Non, mais si on parle de cas par cas, on
est-ce
va
que,
terminer.
Est-ce qu'il y a un délai aujourd'hui, il y a un nouveau lycée?
Oui,
savez, monsieur le ministre, la population dans le temps n'est plus la même. Il y a un effectif croissant. Donc il faut savoir s'adapter. Il faut qu'il y ait une vraie politique. Il faut qu'il y ait même l'Assemblée générale de l'éducation nationale pour donc définir les grandes lignes
des États généraux.
Pour définir les grandes lignes de l'éducation dans une vision à long terme. Et progressivement, nous allons monter. C'est ce qu'on ne cesse de vous le rappeler au niveau de l'Assemblée nationale, que vous manquez d'ambition. Et quand on vient, on vous pose des questions, mais monsieur le ministre, êtes-vous sûr avec ce que vous avez proposé comme budget, êtes-vous sûr de réaliser la mission qui est la vôtre? Vous faites toujours des efforts, on est tous solidaires à ce que le gouvernement fait, on est tous solidaires. C'est les mêmes chansons, Armando, que nous écoutons.
Évoquons la question de la pauvreté. Hein, et dans ce rapport, le revenu par habitant est faible en raison de la fragilité financière. Avec cette situation, peut-on espérer au développement de ce pays?
Mais s'il n'y a pas les routes, s'il n'y a pas l'énergie, comment peut-on prétendre parler du développement? Combien de Centrafricains aujourd'hui travaillent? C'est le secteur privé qui fait rentrer de l'argent dans la caisse de l'État. Or qu'ici, nous sommes un État fonctionnaire. Notre administration est tellement politisée aujourd'hui et au détriment de tous ceux qui pouvant nous aider à se développer. Donnez-moi l'exemple des Centrafricains qui ont eu la chance d'être appuyés par le gouvernement dans le cadre d'un programme d'appui pour créer une classe moyenne en République Centrafricaine afin de faire repartir pour que cette classe moyenne aussi puisse aider et maintenir l'économie centrafricaine. Aujourd'hui, malheureusement, non. On a toujours tendance à faire confiance, non seulement aux bailleurs, ou à des petits amis de là et là, de la sous-région, dans d'autres pays, qui viennent nous miroiter des choses, qui prennent tout, qui s'accaparent de tout. Et le Centrafricain ne peut que rester les bras ouverts, les bras et les yeux pour regarder. Donc pour ce qui concerne le niveau de vie de Centrafricain, je ne suis pas surpris. À moins que vous pensez à autre chose, mais moi, monsieur le ministre, vous n'allez pas me dire le contraire, que l'état actuel de notre pays ne peut pas justifier d'un développement digne de ce nom. Oui ou non, monsieur le ministre?
Mais non, bien sûr que vous avez... bien sûr que vous avez tort de dire ce que vous dites.
Mais donc, si vous me dites que j'ai tort, mais vraiment, je pense que nous sommes ici dans les studios de Ndekeluka.
Oui.
En descendant juste ici, vous allez commencer à trouver les nids de poules. Devant là où on traverse ici, il n'y a pas de route. Et ça, c'est jusqu'à Ndélé, jusqu'à Birao, jusqu'à Obo, et c'est partout. Vous ne pouvez pas prétendre à un développement. Moi, je ne suis pas surpris. Il n'y a pas une politique de gouvernement. Vous faites tous les jours des séminaires, des forats. Je vous ai vu, vous êtes mis ces derniers temps à faire un séminaire gouvernemental.
Un mois,
pour se parler. Mais c'est le résultat. Nous attendons de voir le résultat. Ce serait peut-être trop prématuré d'en juger. J'aimerais savoir si effectivement, mais quand c'est un séminaire gouvernemental qui a pris un mois et il y a déjà bientôt 2 mois passés après la fin de ce séminaire, je ne sais pas, monsieur le ministre. On a déjà consommé un mois dans ça.
Mais
les résultats,
trois semaines.
Donc aujourd'hui, il y a des actions d'urgence qui devaient être menées. Donc il y a un des projets d'urgence pour montrer aux yeux de la population que que ce séminaire a donné des orientations, et ces orientations doivent être appliquées. Même pour chez vous, au niveau de la jeunesse sport, je sais que peut-être ça prendra du temps pour que ça arrive. Peut-être, à moi aussi, je me trompe pas, le Kwati Kodro, là, peut-être c'est les premières actions d'urgence données dans la lettre.
Mais c'est lancé après ce séminaire, je pense.
Oui, mais je pense que peut-être ça fait partie des facteurs du développement de notre pays. Donc c'est pour cette raison, vous voyez, tous les samedis, enfin les ministres, ce que nous au niveau du Parlement, on a l'habitude de faire régulièrement, les ministres se mettent à débarrasser les saletés, mais bon, ça ne suffit pas. Là, c'est lutte contre l'insalubrité, mais ce que le Centrafricain a besoin, c'est de savoir combien il va gagner dans son assiette pour permettre de subvenir à ses besoins, que ça soit au niveau scolaire, au niveau des ménages, et aussi se projeter pour le développement de notre pays. Voilà,
c'est oui, monsieur le ministre.
sur ce point.
Quel point?
Le point que...
Il a soulevé beaucoup de points. Moi,
oui, mais allez-y.
Rappelez-moi, il faut que ça...
Le premier point, c'est sur la pauvreté. Et ce sont les accessoires de cette pauvreté que le député a soulevé. Donc, vous prenez la parole. Est-ce que vous constatez aujourd'hui que dans ce rapport de PNUD, là, on parle du revenu par habitant qui est très faible en République centrafricaine?
Tout d'abord, je pense que j'ai remis une bonne partie du rapport en cause. Mais une chose est vraie, sur les constats, question de route, niveau de pauvreté, etc., il y a plusieurs autres paramètres qui peuvent expliquer ça. Mais moi, à titre personnel, en tant que centrafricain, je ne suis pas fataliste. Vous savez, de nature, je ne suis pas fataliste. J'aime relever avec honneur, dignité, à chaque fois les défis. Je ne suis pas quelqu'un qui a peur de quoi que ce soit, ni d'affronter les situations, quelle que soit leur forme. Mais aujourd'hui, je suis heureux de travailler avec un président de la République qui a aussi compris cette situation. Nous ne sommes pas un pays pauvre, je vous assure, monsieur l'honorable.
Mais je suis
la RCA n'est pas un pays pauvre.
Mais la RCA,
l'idée,
c'est mal géré,
monsieur
le ministre,
selon laquelle on est le pays le plus pauvre. Non, on est le pays le plus riche au monde, avec plus de 77 indices de minerais. Oui. Ceux qui ont fait le
ça,
rapport,
c'est toujours dans le
les propositions, non, laissez-moi parler.
Allez-y.
On est toujours
okay
dans la théorie. Hein.
Non, c'est-à-dire tout ce que vous voyez en termes d'injonctions, en termes de projets, de vision de développement classique que même deux fois l'Occident nous impose, par l'intermédiaire de leurs bras séculiers qui se trouvent les ONG, les agences des Nations Unies, etc. Mais c'est dans le but, effectivement, de maintenir la symétrie en matière de rapport de force sur le plan économique. On nous dicte des choses. On nous dit des choses si nous respectons effectivement les recommandations, mais c'est pour aller encore s'enfoncer. Aujourd'hui, nous avons un chef d'État qui a une vision autonome du développement. Le séminaire gouvernemental dont l'honorable a parlé, mais effectivement, lisez le contenu. Mais je suis sûr que les préoccupations que vous avez soulevées d'aujourd'hui et celui qui viendra juste après, et même pour celui de demain et après-demain, ont tous été pris en compte dans le séminaire gouvernemental qui a permis à chaque ministre non seulement de maîtriser son dossier, d'expliquer, parce que le président dit qu'il ne veut pas le ministre de parapheur. Nous avons égrené les causes du sous-développement. Nous avons parlé des injonctions, des solutions du développement, etc., des solutions autonomes. Et nous sommes en train de travailler pour mobiliser les menus recettes sur le plan national pour parler des déficits de 21 milliards. Là, on n'a pas tendu la main à qui que ce soit. On est en train de travailler. C'est vrai. Le facteur, par exemple, lié à la corruption, c'est une réalité économique en Centrafrique depuis longtemps. Mais là, aujourd'hui, nous avons mis le point sur les facteurs qui nous reculent, qui causent la pauvreté. Parce que quand il y a des détournements, c'est normal que des fois, l'argent qui devrait être utilisé pour le bien-être de la population est utilisé pour autre chose. Voilà pourquoi la lutte contre la corruption est devenue une réalité absolue pour
Monsieur
le gouvernement.
Le ministre,
et nous travaillons pour ça. Et donc, si vous ne... c'est vrai que les théories du développement, pour beaucoup, je connais par cœur, pour avoir écrit là-dessus, etc., j'ai démontré leurs limites. Toutes ces injonctions, et qui, aujourd'hui, que si le centrafricain arrête de penser comme un Européen, arrête de penser comme si la solution viendrait ailleurs, alors à ce moment-là...
Mais sur le plan aujourd'hui de la pauvreté, les routes, etc., les gens ne mangent pas, à leur faim, etc., on veut, comme vous l'avez expliqué, oui, le séminaire,
bon,
mais avant tout cela,
l'État a mis en place le fonds de développement de garantie pour soutenir les entreprises. Le président de la République a fait une entrée pour la jeunesse entrepreneuriale. Aujourd'hui, quand tu développes des choses, il y a beaucoup de choses.
Monsieur le ministre, où en sommes-nous avec le fonds de garantie?
Oui, mais il y a déjà des entreprises qui commencent déjà à signer des contrats.
Des
et
contrats,
les choses
mais le décaissement, non, en sommes-nous?
Non, mais c'est tout un processus. Il y a eu 3 mois que ça a été mis en place.
J'ai reçu le ministre en charge des petites et moyennes entreprises. La question lui avait été posée. À l'époque, on me disait que le décaissement était imminent.
Oui,
aujourd'hui,
bien sûr.
On ne voit rien venir.
Non, il y a tout ça là. Il faut avoir les garanties de deux côtés. C'est quand même important. Nous avons déjà des jeunes entrepreneurs qui ont aussi signé des contrats. Il y a, même dans le déplacement du président de la République, il voyage avec les entrepreneurs, les jeunes. Ça n'a jamais été question de ça bien avant.
Mais
et donc,
voulons,
là où je vous
nous
parle,
voulons
est-ce que vous avez été
concret.
J'ai été à l'Assemblée nationale. J'ai été à l'Assemblée nationale, dans votre maison.
Oui.
Il y avait eu un séminaire, il y a de cela, une semaine, sur la jeunesse entrepreneuriale.
Oui, monsieur.
Allez voir ce que les jeunes centrafricains sont capables de faire en matière d'invention, en matière de production, en matière d'idées.
Il est où l'accompagnement du gouvernement?
Mais l'accompagnement est là.
Ce qui suffit à la seule
garantie.
Mais non, monsieur le ministre.
Mais oui, c'est comme
vous
un
parlez,
d'aide publique.
Vous parlez à un honorable député, président de la commission production, ressources naturelles et environnement.
Oui.
Qui reçoit régulièrement les ministres en charge de la production et du développement dans ce pays. C'est-à-dire que je suis à même de vous dire que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est nous voulons juste montrer aux yeux du monde que l'État existe. C'est vrai. Nous, on est bien, on est
mais
bien,
non,
on aime bien, on aime bien faire les fois. Je veux le concret.
C'est-à-dire
que je mets quiconque au défi de me sortir.
Si vous me dites
d'ici,
que le fonds de développement de garantie n'est pas du concret, alors là, il me
faut. Ah non, je n'ai pas dit que ce n'est pas du concret. Le concret, c'est quoi? C'est-à-dire que un pays comme la République centrafricaine, qui manque de tout. La population centrafricaine a des problèmes pour subvenir à leurs besoins. Nos entreprises peinent à avoir même des crédits dans les banques. C'est au gouvernement de les appuyer dans ce sens-là. Et le fonds de garantie en question, c'est la Banque mondiale. Vous venez de dire quelque chose tout à l'heure, qu'on nous dicte des choses, mais ça ne dépend pas, ça ne relève pas de la volonté à 100% de l'État. C'est la Banque mondiale qui veut financer ce projet.
Donc mais ce n'est pas le gouvernement.
Il est où le projet du gouvernement?
Non, ça, je vous arrête tout de suite sur ce point.
Dites-moi.
Parce que vous savez, de toutes les institutions qui existent ici en République centrafricaine, seule la Banque mondiale finance la politique du gouvernement.
Oui.
C'est-à-dire, la Banque mondiale...
Et c'est ce que l'honorable
oui.
a dit.
Non, mais
je reconnais.
Finance la politique du gouvernement. C'est-à-dire, s'il y a des fonds de garantie, etc., s'il y a des réalisations pour le compte dans le partenariat entre la RCA et la Banque mondiale, c'est l'idée du gouvernement. C'est la proposition du gouvernement. C'est la vision
nous
politique
nous
du chef
d'État. Nous ne voulons plus que ça soit la Banque mondiale qui viennent financer
et
de
qui,
tels
comme vous l'avez
projets.
Parlé de dicter ici.
Monsieur le veut réduire la pauvreté.
Monsieur le ministre.
Yes. Les banques
Monsieur
mondiales,
le
d'abord un. Donc vous voulez que la Banque mondiale part en faillite.
Non.
Mais la Banque mondiale existe pour
Monsieur
ça. C'est
ministre.
La mission de
Monsieur
la Banque
le
mondiale.
Parlez
vous êtes
s'il vous plaît.
D'accord
oui.
que le patron
oui.
des banques commerciales ici en République centrafricaine s'appelle Hervé Doba à l'heure actuelle. C'est le ministre des Finances. C'est lui qui dicte la politique, qui fait des injonctions aux banques pour le faire. Montrez-moi, j'ose croire que pendant votre séminaire gouvernemental, vous avez pris ce problème à bras le corps, c'est-à-dire de faire injonction aux banques de donner des crédits à cette petite entreprise que vous venez d'identifier pour relever le défi de l'économie. J'aimerais que ça soit parce qu'il faut qu'il y ait une, il faut créer le génie centrafricain. N'attendez pas à ce que ça soit la Banque mondiale, le FMI pour le faire. Nos priorités sont souvent ailleurs.
Mais non,
la banque,
mais non, mais
les
non,
banques, non. les banques de la place.
Vous voulez parler des banques primaires.
Les banques de la place peuvent, avec, sous l'autorité du gouvernement, peuvent recenser ces entreprises qui manquent de financement pour permettre à ce qu'il
oui,
y ait...
Monsieur le ministre, allez-y.
Non, je pense que c'est pour honorable une manière d'applaudir le gouvernement. Parce que exactement...
Il vous souviendra que...
Calmez-vous. Quelques secondes, il finit, vous allez répondre. Allez-y.
Non, pour moi, je prends ça comme un compliment. C'est une manière d'applaudir le gouvernement.
Je suis dans mon rôle.
Parce que s'il était au salon de la jeunesse entrepreneuriale, il allait comprendre qu'on a vu les DG des banques qui ont déjà accompagné d'autres entrepreneurs. Je peux même vous égrener la liste. Ce débat peut même continuer juste après. Et même plus, je peux vous appeler des témoins pour dire il a reçu ça, ça, ça. Il y avait le DG de BGFI, etc. Bon, maintenant...
Quelle est la porte
quand vous remontez... Non, mais je vous dis... Mais vous avez dit qu'au séminaire gouvernemental, le ministre avait dit clairement de finances allait donner des injonctions
aux banques pour s'occuper du financement de la jeunesse entrepreneuriale. Le message a été écouté. Maintenant, la jeunesse entrepreneuriale est financée. Et vous remettez en cause. Vous remettez aussi
je
en cause.
Je ne remets pas en cause.
Donc, vous nous applaudissez.
Non, je ne vous applaudis pas. Je demande juste de
Banque mondiale. La question de Banque mondiale. La Banque mondiale. Mais si la Banque mondiale ne nous finance pas, il faut qu'ils mettent la clé à la porte. Le libéralisme que vous défendez. Mais le grand chantre de ça, c'est la Banque mondiale. Ils existent parce qu'ils nous financent. Et que nous aussi, on est pays membre. Ça a été créé avec un accord. Et donc, dire qu'aujourd'hui...
Monsieur le ministre, vous savez pourquoi j'ai parlé de la Banque mondiale?
Oui,
parce que vous avez dit tout à l'heure, au début de cette émission, que vous êtes contre... contre toute forme
d'injonction
et d'ingérence de l'extérieur.
Oui,
alors aujourd'hui, vous parlez de la Banque mondiale.
Oui, la Banque mondiale.
Qui est un partenaire incontournable pour le gouvernement aujourd'hui.
La Banque mondiale, qui est un grand partenaire avec qui nous avons eu des discussions. Moi-même, j'ai reçu le directeur, le représentant de la Banque mondiale, où on a été dans les détails. Et j'ai parlé que, par exemple, pour la jeunesse, il fallait inscrire le narratif de la lutte contre la drogue, de ceci, cela, dedans. Mais puisque la Banque mondiale, le représentant de la Banque mondiale m'a dit à moi, dans mon cabinet, que la Banque mondiale est là que pour financer la politique et la vision politique du gouvernement. La Banque mondiale ne fait pas des injonctions.
Alors,
voilà pourquoi je jette la fleur.
Maintenant, le temps nous fait défaut. Je vous invite maintenant. Je propose l'extrait du discours du président de l'Assemblée nationale, Saint-Pierre Mathieu Sarandi, lors de l'ouverture de la deuxième session ordinaire des députés. Il trace ici quelques pistes de solutions que le gouvernement pourrait entreprendre face à cette situation.
L'économie centrafricaine est gravement impactée par les effets de la pandémie à COVID-19, la guerre en Ukraine, la crise sécuritaire ou le désistement de certains partenaires techniques et financiers. La République centrafricaine est sous un programme de référence avec le Fonds monétaire international, en attendant un programme soutenu par une facilité élargie de crédit, ce qui l'expose par conséquent à un risque de surendettement au point où le gouvernement s'est engagé auprès du Fonds monétaire international à ne recourir qu'aux dons et autres prêts à des taux concessionnels. En effet, dans un contexte où les partenaires techniques et financiers sont plus réticents à accorder des moyens financiers, le pays doit compter plus sur ses ressources propres. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, devant cette situation, le gouvernement doit tout mettre en œuvre pour mobiliser davantage les recettes domestiques de l'État. Pour ce faire, un accent particulier doit être mis sur une meilleure gestion des exonérations fiscales et douanières, ainsi qu'une bonne maîtrise des flux commerciaux. À ce propos, l'entrée en service dans les très prochains jours du port sec du PK26 y contribuera efficacement, j'en suis persuadé. Aussi, le gouvernement doit poursuivre les réformes afin d'élargir l'assiette fiscale et porter le niveau de la pression fiscale qui se situe actuellement entre 8 et 9% à un minimum de 12%, car le niveau de la pression fiscale en zone CEMAC est à 17%. Dans la même perspective, la lutte contre la fraude, la corruption, la gabegie et les autres maux qui minent l'administration en général, les finances publiques en particulier, doit être intensifiée et soutenue. C'est à ce prix, et à ce prix seulement, que les finances publiques de notre pays connaîtront une embellie.
Voilà, c'était donc Saint-Pierre Mathieu Sarandi dans le débat politique de Radio Nikeluka. D'abord, quel commentaire faites-vous de cet extrait du discours du président de l'Assemblée nationale, Monsieur Yandoka?
Le président de l'Assemblée a donné les grandes lignes, la vision de l'hémicycle, enfin la vision des parlementaires que nous sommes. Nous avons constaté, parce que notre rôle c'est de contrôler les actions du gouvernement, nous avons constaté qu'il y a quand même beaucoup de faiblesses en matière de relèvement économique aujourd'hui dans notre pays, et c'est pour cette raison que le président a bien voulu rappeler au gouvernement ses prérogatives, comment le gouvernement devait s'y prendre pour relever. Mais j'en bande en disant ceci, que le vrai problème, ce ne sont pas que des discours, c'est... Il n'y a... J'ai souvent l'habitude d'entendre qu'il y ait dans les discours principalement des membres du gouvernement, que ce soit le président de la République, l'assainissement du climat des affaires. Et pour moi, ça reste un slogan. Et ce ce slogan ne peut pas développer un pays. L'assainissement passe d'abord par la justice. Vous savez que on a un problème à ce niveau. Il y a un très 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 grave problème à ce niveau, au niveau de justice sociale, au niveau des garanties. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, la RCA est incapable d'inciter des investissements de grande envergure aujourd'hui. Tout ça parce que la manière à laquelle les choses se gèrent ne permettent pas à une entreprise sérieuse de venir s'installer en République centrafricaine pour élever le défi. Le gouvernement, ces jours-ci, si vous ne savez, c'est pas aujourd'hui, c'est depuis au moins 3-4 ans que le gouvernement carrément en récession et personne veut l'entendre. On vit de dette en dette. Et maintenant, étant donné que les partenaires financiers ont fermé tous les robinets, on se retourne vers le marché privé à des taux exorbitants. C'est-à-dire que j'ai vu que le gouvernement est allé tirer 10 milliards récemment au Cameroun pour venir faire face à ces charges. Vous voyez, tout ça avec des taux que je ne sais pas. Je ne sais pas vérifier. Peut-être le ministre me dira, nous donnera le taux réel, mais plus de 20%. Donc vous empruntez 10 milliards, vous devez rembourser, et dans un court délai, au moins 12 milliards. Donc ça ne peut pas aider le pays. Et ça, j'espère que le ministre va nous donner des réponses par rapport à ça. Et je pense que le message du président de l'Assemblée, c'est un message fort qui est à l'endroit. C'est-à-dire que ça doit réveiller notre conscience pour que les Centrafricains puissent se prendre en main.
Voilà, monsieur le ministre, rebois sur cette question, le rapport ou bien la question que le premier ministre, enfin l'ancien premier ministre du président Touadéra, qui est actuellement le président de l'Assemblée nationale, a relevé pour parler des défis, pour évoquer la question. Peut-on dire que le gouvernement manque de vision sur les stratégies à adopter face à cette question de tension de trésorerie et de la pauvreté que le pays connaît en ce moment?
Merci, monsieur Armando. Je tiens à relever 3 ou 4 choses. Le président de l'Assemblée a parlé en toute gravité. Il a mesuré la situation parce que il faudrait aussi expliquer qu'il était ancien premier ministre. Il a eu aussi à faire face à cette situation. Et cette situation, depuis lui et ses successeurs, n'ont de cesse de faire des efforts pour créer les conditions de l'embellissement de notre circuit économique et dans de tous les secteurs du développement. D'un. De deux, il a décrit des paramètres exogènes, effectivement, qui s'imposent à nous. Parce qu'aujourd'hui, le monde, avec la mondialisation, le monde est finement ultra interconnecté. C'est-à-dire que il a parlé de Covid-19, qui n'est pas une crise centrafricaine. C'est une situation crisogène mondiale et qui influe sur l'économie mondiale. Et la RCA aussi. La deuxième chose, il a parlé de la guerre en Ukraine. Quoi faisons concrètement?
Mais vous n'avez pas aussi relevé les pistes?
Non, je suis en train de parler, je n'ai pas encore
fini. Allez-y, pour gagner du temps.
Je n'ai pas encore fini, monsieur Armando. Donc, il a parlé de tout ça. Maintenant, la question de piste de solution, c'est vrai, il a parlé de l'assainissement, du climat des affaires, et qui passe forcément par le développement des garanties pour lutter contre l'insécurité juridique et judiciaire. Ce qui crée des confusions souvent, c'est quand les opérateurs économiques arrivent, on leur demande de mettre l'argent dans la poche, que voilà, au lieu que l'argent termine sa course dans la caisse de l'État. Il y a eu tellement des intermédiaires, souvent, par le passé. C'est ça, effectivement, qui dégrade le climat des affaires. Mais les conditions ont été créées. La crypto-monnaie aussi aujourd'hui est une grande avancée dans la conquête de la souveraineté économique et monétaire de la RCA, et que cela est salué par toute l'Afrique et même le monde. Vous voyez, ceux même qui nous ont critiqué, l'Europe aujourd'hui est dans crypto-monnaie. Et donc ça là, ça va permettre de désenclaver l'économie. Il a parlé aussi en termes de solutions de port sec. Aussi ça, c'est des solutions qui a existé quand il était premier ministre. C'est un projet et on est presque en face d'aboutissement. Là, c'est des situations, des solutions concrètes. Encore, la lutte contre la corruption, c'est de mettre accent, appeler à la responsabilité de ceux qui sont en charge
de répression. Ceux qui ont charge, par exemple, les hautes autorités de bonne gouvernance, etc., qui souvent mènent des actions, font des rapports, et ces rapports devraient être adressés à la justice, qui est aussi en charge de bonne gouvernance, de poursuivre effectivement les auteurs, etc.
Malheureusement. Donc,
malheureusement quoi?
Malheureusement, cette justice n'existe que de nom.
Non,
la justice de notre pays aujourd'hui en matière de la corruption existe que pour les uns, mais pas pour les autres. Ce qui est dommage. Vous le savez, monsieur le ministre. Vous savez qu'au sein de votre gouvernement aujourd'hui, vous avez des collègues véreux. Non seulement qui font des détournements, mais qui ne sont pas inquiétés, mais ils bloquent même le processus du développement. Quelque chose qui peut rapporter de l'argent dans la caisse de l'État, ils font...
Mais donnez-moi un nom.
Bon, vous le savez très bien.
Non, mais je ne sais pas. Moi, à titre personnel, j'ai eu des collaborateurs.
Vous avez fait le séminaire gouvernemental, vous avez parlé à cœur ouvert.
Voilà.
Vous savez très bien qui sont ces véreux. Vous les savez.
Mais dénoncez-les à la justice.
Le problème, cher Armando...
Mon cher problème, honorable,
ne vous inquiétez pas, ne vous
parce
inquiétez
vous
pas,
savez,
nous allons faire notre travail. Non, non,
dénonciation.
Non,
faites
vous
des
savez, la justice est incarnée, la justice incarnée aujourd'hui en matière de la lutte contre la corruption n'existe que de nom. Je pèse mes mots. Existe pour les uns quand tu n'es pas d'accord avec eux. Mais quand tu es d'accord avec eux, la justice n'existe pas.
Non.
Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens.
Il y a l'indépendance de la justice.
Arrêtez de bluffer. Arrêtez de bluffer les gens. Vous le savez
très bien. Il y a tellement qui font du bruit.
Comme disaient certains, en privé, vous n'allez pas me dire ça, monsieur.
Mais c'est bien sûr. On finit en privé, je vais vous donner
un exemple. Avant de clore cette année, c'était au mois de juin, la Banque mondiale avait alerté le gouvernement sur son action à investir dans le capital humain pour stopper le cycle de la pauvreté dans le pays. Et avec la tension de trésorerie que connaît le pays en ce moment, ne craignez-vous pas que cette situation risque de s'accentuer?
Mais nous sommes déjà dans la crise profonde. Mais il faut juste avoir le courage de dire aux Centrafricains, c'est pour cette raison. Vous savez, le problème de notre pays, il faut qu'on arrête de faire le distinguo entre le pouvoir, l'opposition, la majorité. Nous devons nous unir autour d'une table pour poser les vrais problèmes, les défis de l'heure. Parce que quand on parle d'une crise, mais ça ne touche pas que le ministre, parce qu'il est ministre de la République, ça va me toucher moi aussi parce que je suis député de la nation, vous en tant que journaliste. Mais le leadership, parce qu'on a un problème de leadership, nous ne savons pas où se trouvent nos priorités, on passe tout notre temps à s'invectiver, à se jeter, à s'orienter sur des projets utopiques, croyant que c'est la meilleure solution pour le développement de notre pays.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Je parle des gens qui s'excitent autour des projets de référendum aujourd'hui. Ce n'est pas ça la priorité, je vous l'avais dit. Ce n'est pas ça. La priorité, c'est ça. Poser la question à un Centrafricain aujourd'hui, quelle est sa priorité?
Monsieur Rebois.
Monsieur le ministre, quelle est la priorité des Centrafricains aujourd'hui?
Vous savez, pour un élu de la nation qui pense que le référendum, que moi je considère comme l'expression de la valeur démocratique la plus élevée,
qui est aussi
et qu'un honorable remet ça en question, ça pose problème.
Mais monsieur le ministre,
ça
y a
pose
un problème.
Là, ce n'est pas la priorité.
Non. On pose un problème d'ordre social et économique.
Oui.
Alors l'argent, on n'a pas d'argent pour se soigner, pour se donner la chance aux gens d'aller aux élections, pour donner la chance aux élèves d'aller étudier décemment, mais on a l'argent pour parler de référendum avec. Parce que le référendum coûte, monsieur le ministre.
Vous êtes un peu en retard. Vous avez posé beaucoup de questions, monsieur.
Vous
avez deux minutes pour compléter le timing et pour qu'on puisse boucler.
Pour embellir la vie du peuple centrafricain, il faudrait aussi que les institutions de la République évoluent. Même si ça peut passer par le référendum, pour moi, c'est pas ça qui va nous freiner. Au contraire, ça va créer, ça va donner des avancées, sachant bien que il y a beaucoup de choses à faire, il y a des sujets qui méritent aussi de passer par là. Maintenant, dans la priorité du gouvernement, La priorité du gouvernement dans la lettre de mission qu'on nous a tous donnée, ou le discours programme du Premier ministre et même le discours d'investiture, tous ces faits terminent leur course dans le 5 verbes du médecin. Okay? Et donc, cette priorité, on en a 5. Et dans tous, dans ce rapport, je retrouve la priorité. En matière de santé, en matière de développement humain, en matière de stabilité, etc. Parce que vous savez, pour se développer, il faut créer l'environnement. Mais l'environnement doit être certain si jamais nous avons le contrôle de tout le territoire. Nous avons parachevé la reconquête du territoire. Maintenant, le développement ne peut pas être qu'à Bangui. Il faudrait créer des secteurs d'activité. Vous avez parlé de l'électricité. Économiquement, c'est des indices économiques très probants. Aujourd'hui, nous sommes en train de relever le défi pour l'électricité. Nous aurons l'électricité 24 sur 24 dans le jour. Mais il faudrait qu'il y ait des secteurs d'activité par région, etc., pour permettre de rebousser l'économie. Et c'est ce que nous faisons.
Monsieur...
Nous pouvons revenir là-dessus, dans le détail, même en off, mais prenez le temps de lire la lettre de mission.
Monsieur
Révoise... chaque ministre pour Monsieur qu'il vous décline la lettre de mission.
Monsieur
et vous saurez...
Dominique Yandoka,
ça s'achève
le débat politique d'aujourd'hui. Nous avons passé en revue vu les points évoqués dans le rapport sur le développement humain publié par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Nous avons parlé de la pauvreté qui gangrène la population centrafricaine et ses corollaires. Merci à vous, hein, Monsieur Dominique Yandoka, député de la Nation, député du 4e 1. Merci aussi à vous, Monsieur Aristide Briand-Réboise, ministre de la Jeunesse et des Sports. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été des nôtres. Il ne me reste qu'à vous souhaiter bon week-end. Portez-vous bien. On ne vit qu'une seule fois. À la semaine prochaine, même heure et même fréquence. Au revoir.